Devenir une célébrité est le rêve de plusieurs. Pour y parvenir, certaines personnes doivent travailler sans relâche, pendant que d'autres le deviennent du jour au lendemain. Mais bien souvent, quand l'ascension au monde des stars se fait rapidement, la chute peut l'être beaucoup plus. Salut et bienvenue à vous, chers auditeurs. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est moi, votre hôte, Frédéric Hiel. L'épisode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est venu me chercher personnellement. Ça m'a remémoré une des expériences quand même assez difficiles psychologiquement dans ma vie. J'irais peut-être dans les top 5 même. Je vais en reparler un peu plus tard, mais avant de débuter, si vous voulez voir des photos ou des documents sur les épisodes que je publie, vous allez trouver tout ça sur le site officiel du podcast qui est mauvaisaugure.ca. Si jamais vous traversez une mauvaise passe, il y a aussi une section avec des ressources et des organismes de gens qui sont prêts à vous aider, et ça dans la région du Québec, la France et la Belgique. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Sans plus tarder, on va débuter. Aujourd'hui, dans le dossier que je vous présente, ça implique Jennifer Mee, qui est née le 28 juillet 1995. Jennifer a grandi à Saint-Pétersbourg, en Floride, aux États-Unis, bien sûr. Saint-Pétersbourg est une ville côtière en bordure du golfe du Mexique. Ça se trouve dans la région de Tampa Bay. La ville est composée d'une population d'environ 258 000 habitants. Côté criminalité, depuis le début des années 2000, on peut observer une diminution considérable d'offenses criminelles. Mais même malgré ça, le taux de crime reste quand même assez élevé, étant donné que de nos jours, il est encore deux fois plus que la moyenne des villes normales aux États-Unis. Elle ne connaissait pas son père biologique. Lui et sa mère se sont séparés alors qu'elle était très jeune, environ 2 ans. Par la suite, sa mère a rencontré un autre homme. En grandissant, elle a été décrite comme un enfant bien élevé, douce et attentive. Elle était très responsable pour son âge car elle avait 4 demi-sœurs qui étaient tous plus jeunes qu'elle. C'est sa mère qui se nomme Rachel qui faisait vivre tout ce beau monde-là en travaillant dans un restaurant. Le beau-père de Jennifer, lui, il est en arrêt de travail dû à des raisons médicales. J'ai pas pu trouver aucune documentation officielle à ce sujet, mais semble-t-il que Jennifer avait déjà été aux prises avec des problèmes de santé, autant physiques que psychologiques. Elle aurait aussi des troubles d'apprentissage. J'ai trouvé beaucoup de détails sur le genre de personne qu'elle était en grandissant. Mais ça vient de sa famille immédiate, et comme vous allez le constater plus tard dans l'épisode, sa famille partage la fausse information sur Internet. Des éléments qui viennent contredire des faits prouvés à son procès. C'est le 23 janvier 2007. Jennifer est rendue âgée maintenant de 15 ans. Alors qu'elle était en classe de sciences, elle a été prise d'une crise de hockey. Une dizaine de minutes s'écoulèrent et ça n'avait toujours pas cessé. Voyant qu'elle dérangeait les autres étudiants, elle s'est rendue au local médical de l'école. Mais Jennifer ne retournera pas en classe cette journée-là, car ses hockey ont duré des heures. Tout le monde sur la planète a déjà eu le hockey. C'est quoi le hockey? Le hockey, c'est dû à cause que le diaphragme se contracte involontairement. C'est assez simple comme explication, mais pourquoi que le diaphragme fait ça? C'est là que ça se complique un petit peu plus. Malgré le fait que c'est facilement lié au comportement qu'on pratique, comme manger trop vite ou trop manger, boire de l'alcool, et j'en passe. C'est ça, il n'y a personne qui a été encore en mesure de donner une bonne explication sur le comment du pourquoi du hockey. Ça va de même pour beaucoup de choses, comme les bâillements aussi. Il y a plusieurs théories plausibles, mais il n'y a rien qui a été prouvé. Des petits mystères de la vie que la science n'est même pas en mesure d'expliquer. Et on parle déjà de vouloir aller habiter sur la planète Mars dans les prochaines années. Maintenant, pour revenir à Jennifer Mee, c'est ça, sa crise de hockey était interminable et ça pouvait se produire jusqu'à 50 fois par minute, dû à ce sérieux inconvénient qui se répercutait sur sa vie de tous les jours. Elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner ses activités quotidiennes ainsi que de fréquenter l'école. Ça a dû vraiment être éprouvant pour Jennifer ainsi que toute sa famille, car voyez-vous, en tout, ils étaient 8 à habiter ensemble. Il y avait Jennifer, ses 4 sœurs, comme j'ai dit, sa mère, son beau-père, et il y avait aussi son oncle qui habitait avec eux temporairement et qui dormait sur le divan. Leur intimité était assez limitée, pour ne pas dire inexistante, car tout ce beau monde vivait dans une maison avec seulement 2 chambres à coucher, et semble-t-il que l'insonorisation était plutôt médiocre. Dû à cette raison, toute la maisonnée pouvait entendre ses hoquets, qui, d'après sa mère, ressemblait au jappement d'un chien chihuahua. Au départ, elle a tout tenté les remèdes de grand-mère, mais rien n'a fonctionné. Sa mère a alors amené Jennifer consulter une panoplie de spécialistes en santé, tels que le pédiatre, le neurologiste et un cardiologiste. Mais malgré tous les tests qu'ils lui ont fait subir, il n'y a aucun de ces spécialistes qui est en mesure de l'aider et se débarrasser de cette malédiction. Sa vie est devenue un vrai cauchemar, elle ne dormait plus. Elle a dû changer sa diète et consommait que de la nourriture molle, telle que du Jell-O et du yogourt. Elle devait aussi consommer des médicaments pour l'aider à dormir, ainsi que pour les douleurs musculaires. Ensuite, ils se sont tournés vers la médecine dite plus alternative, telle que l'acupuncture, l'hypnotisme, et sont même allés voir un chiro. Mais encore une fois, ça n'a donné aucun résultat. Ça faisait déjà plusieurs jours que la crise de hoquets de Jennifer durait. Sa mère, qui se nomme Rachel, était vraiment désespérée par la situation. Sans trop savoir quoi faire de plus, elle décida alors de contacter les médias. Elle s'est dit que peut-être que si la population est informée sur la situation de sa fille, de cette façon, il y a peut-être quelqu'un qui la contacterait avec un remède miracle. Il y a une chaîne télévisée qui sont allés faire une entrevue avec Jennifer, et du jour au lendemain, elle est devenue la sensation de l'heure. Et quand je dis ça, j'exagère même pas, là. Toutes les shows télévisés voulaient la voir, elle voyageait en avion à travers le pays, de talk show en talk show, hôtel luxueux, toutes dépenses payées, c'était son heure de gloire. C'était rendu à un point que les gens l'arrêtaient même dans la rue pour se faire prendre en photo avec et lui demander son autographe. J'essaie de ne pas juger, mais comme tous les humains, c'est ça que je fais. Et je dois avouer que si t'es un kid, ok, mais si t'es un adulte qui demande un autographe à un enfant qui est connu parce qu'il a le hockey, sérieux, faut pas avoir de vie. Et c'est ça, Jennifer était maintenant partie intégrale du jet set américain. Et comme sa mère l'avait espéré, de nombreuses personnes ont entré en contact avec eux pour leur offrir leur support, prier, l'encourager et bien sûr lui suggérer des remèdes. Qui étaient des fois plus douteux les uns que les autres, du genre boire des gallons d'eau, avaler des cuillères de sucre en poudre, s'empiffrer de moutarde, fumer du weed, et j'en passe plusieurs. Mais il y en a un que je veux dire que tous les médias qui ont traité le dossier n'ont pas vraiment osé expliquer directement c'était quoi, ou ils se sont juste abstenus d'en parler. Et il y a du monde, des crétins qui lui ont même suggéré de sucer une graine. Puis j'imagine qu'il y a même des adultes qui ont passé ce commentaire déplacé là. J'espère juste que c'est pas les mêmes qui demandaient son autographe quand ils la voyaient. La crise de hoquet de Jennifer a duré de 5 à 6 semaines. Ça s'est enfin terminé grâce à un médecin qui lui aurait prescrit des médicaments pour traiter les effets liés au syndrome de Tourette. Et comme ça, paf! C'était redevenu normal, il n'y avait plus de flash et de caméra autour d'elle. Elle a pu recommencer l'école ainsi que ses activités habituelles. Malgré le fait que son 15 minutes de gloire était terminé, ça lui avait quand même apporté quelque chose de plus. Car son père avait repris contact avec elle après l'avoir aperçue dans un programme télévisé. Elle ne restera pas dans l'ombre très longtemps, car environ 3 mois après sa crise de hockey, Jennifer refera encore la première page des journaux. Mais cette fois, c'était vraiment pas pour la même raison. Elle avait fugué du milieu familial. Ne vous inquiétez pas, il y a un crime qui se commet dans l'épisode, on y arrive bientôt, mais je veux juste vous parler de mon expérience personnelle avant. Et ça n'a pas vraiment rien à voir avec un crime, c'est plus avec le hockey. Voyez-vous, j'ai déjà eu le hockey, et ça pendant près de 48 heures. Bon, je sais que 48 heures peut sembler très peu comparé à 5-6 semaines de Jennifer Me, j'ai pu observer plusieurs enregistrements vidéo où on peut voir Jennifer qui est aux prises avec ses crises de hockey. Elle est atteinte de petits hockey en rafale. Ouais, c'est ça, 50 à la seconde, comme qu'elle disait. Rendu là, je me demande même comment tu fais pour respirer. Moi, quand j'ai eu mon hockey, c'était toutes les 15-20 secondes, et c'était des hockey qui font que ton corps il sursaute tellement que c'est puissant et c'est pas le fun. Comme Jennifer, les premières heures, j'ai essayé tous les trucs de grand-mère qui m'ont passé par la tête. Après une couple d'heures, j'étais colissement à bout de tout ça. Je me disais que je devrais peut-être aller à l'hôpital, mais en même temps, je trouvais ça cave d'aller à l'hôpital pour avoir le hockey pendant qu'il y a du monde qui ont vraiment plus besoin de ces services-là. Je dois avouer que j'ai eu aussi plusieurs mauvaises expériences avec le système de santé canadien, donc ça aide vraiment pas. Et en même temps, j'essayais juste de me convaincre que c'était une crise de hockey tout à fait normale qui allait passer, c'est juste que ça s'étirait un peu plus que d'habitude. Les premières heures sont longues, mais après une dizaine d'heures, c'est là que ça devient pas mal plus sérieux, quand t'es rendu la nuit, pis t'es plus capable de dormir, pis que ça arrête pas. La nuit passe, le soleil se lève, c'est le matin, et c'est encore là. Fatigué, épuisé, là, les minutes, le temps devient long. À chaque hockey qui vient, t'espères, tu souhaites que ce soit le dernier, mais non, ça l'est jamais. C'est devenu omniprésent dans ma tête, je faisais juste penser à ça, aux crises de hockey qui revenaient tout le temps pis qui voulaient pas arrêter. Il y a dans quelques rares occasions où ça l'arrêtait un peu plus longtemps, genre une minute ou deux, là, ça me donnait plein de faux espoirs, j'étais sûr que c'était fini, et paf, ça repartait. C'est surtout après 24 heures que ma santé mentale a commencé à se détériorer, et ça très rapidement. Ensuite, la deuxième nuit blanche a passé. Là, ça fait plus qu'à 24 heures, j'ai pas bu d'eau, j'ai pas mangé, et j'ai pas dormi, ça fait deux jours. Je commençais à avoir des pensées assez violentes et malsaines, disons. Et franchement, après tout ce temps, je sais pas si j'aurais été capable de toffer encore ben plus longtemps. Ça l'aurait été vraiment juste au bon moment. Je commençais vraiment à plus être capable. J'étais désespéré, là. J'avais plus les idées claires, c'était bizarre, là. J'étais plus la même personne. Après 15-20 minutes que ça l'avait arrêté, là, la réalité a frappé en pleine face. C'est-tu que j'étais raqué, j'avais mal là, à tous les muscles de mon torse, de mon cou, c'était atroce. Mais j'étais crissement heureux malgré que j'étais parano que ça revienne à tout moment. Mais je suis resté aux aguets quand même plusieurs jours. Petite tranche de vie. C'est quoi qui a retenu avec ce que je viens de vous conter? Je vais vous le dire. C'est de ne pas être un abruti comme moi. Et que s'il y a quelque chose qui cloche et que vous inquiétez avec votre santé, allez chercher de l'aide. Avoir été intelligent, j'aurais été à l'hôpital. Bon, maintenant on va retourner au dossier principal. Jennifer Me, c'est ça, après sa fugue, elle a continué à faire des conneries, ça jusqu'à l'âge adulte. En 2010, alors qu'elle est âgée de 19 ans, elle a quitté le milieu familial pour aller vivre en appartement. Elle vivait en appartement avec son chum qui se nomme Layman Newton, ainsi que deux autres colocataires. Un jeune homme de 22 ans, ainsi que son troisième colocataire, c'est Laren Rifford, qui lui avait 20 ans, et le quatrième colocataire qui n'a pas vraiment de lien dans l'histoire, donc je nommerai pas son nom. Et maintenant, Jennifer est rendue dans la drogue et le monde du crime et elle se prend pour une gangster. Pendant une journée d'automne en 2010, c'est sur un site internet qu'elle a fait la rencontre d'un jeune homme qui se nomme Shannon Griffin, qui est âgé de 22 ans au moment des événements. Shannon vient d'une famille à revenus modestes. Ses proches l'ont décrit comme étant une bonne personne, tranquille et polie. Il aimait les sports et jouait au football américain. C'était une bonne personne qui était talentueux dans ce qu'il entreprenait. Il était originaire de l'État du Mississippi, dans une petite ville du nom de Peetle, composée d'environ 11 000 habitants. C'est une région qui avait été vraiment affectée par l'ouragan Katrina en 2005. Le désastre et les répercussions qu'avait apporté la tempête avaient grandement affecté Shannon. Il s'avait renfermé sur lui-même, il socialisait plus vraiment, il sortait rarement à l'extérieur. Et dû à ça, il voulait changer de vie et repartir à zéro. C'est pour ça qu'il avait déménagé à Saint-Pétersbourg environ un an avant sa mort. D'après ses proches, le déménagement y avait vraiment fait du bien. C'est ça, il avait fini son équivalence d'études secondaires. Il tenait un emploi de maintenance dans un commerce à rayons. Et il avait recommencé à socialiser. Et il avait en tête de rencontrer une femme. Il était, je pense que ça faisait longtemps qu'il était célibataire. Donc, il était vraiment content quand il a commencé à échanger avec Jennifer Mee sur Internet. Après quelques jours, ils ont décidé de s'organiser un rendez-vous pour se rencontrer en personne. Ils ont convenu que ça allait être dans la soirée du 10 octobre. D'après un des cousins de Shannon qui l'a vu avant son départ, il a déclaré que Shannon était souriant, excité et avait vêtu ses plus beaux habits parce qu'il s'en allait à une date. Shannon a quitté sur sa moto de type scooter et s'est rendu à l'endroit convenu. Il a dû trouver ça un peu bizarre parce que l'endroit où il devait rencontrer Jennifer, c'était dans un quartier louche, dans une ruelle à côté d'une maison inhabitée. Et c'est dans cette même ruelle que son corps sans vie sera retrouvé le lendemain matin. Le travail des policiers n'a pas été très compliqué étant donné qu'ils ont juste eu à inspecter les derniers messages textes que Shannon avait échangés avant de mourir. C'est seulement quelques heures après le meurtre, le lendemain le 24, que les policiers ont mis Jennifer, Rayford et Newton en état d'arrestation. Les trois individus ont pu être appréhendés sans problème à l'endroit où ils habitaient. Pendant la fouille des lieux, les policiers ont pu découvrir des objets personnels appartenant à Shannon. Il y avait entre autres ses clés ainsi que son portefeuille. Et il y a des analyses qui ont été faites par la suite et il y a les empreintes de Jennifer Mee qui ont été retrouvées sur le permis de conduire de Shannon. Il y a aussi l'ADN qui appartenait à Jennifer qui a pu être prélevé sur les vêtements de Shannon. Pendant son interrogatoire, la première version que Jennifer a donnée aux enquêteurs, ce serait que Shannon a été abattu à cause qu'il couraillait un peu trop après la petite amie de Rayford. J'ai pas les détails exacts de l'interrogatoire, mais j'imagine que rendu là, les enquêteurs y ont parlé des textes qu'ils ont trouvés qu'elle avait échangés avec Shannon. Car elle a vite changé sa version des faits. Ensuite, elle a déclaré aux enquêteurs que Shannon voulait acheter du cannabis et que c'était ça le but de leur rencontre, elle voulait lui trouver de la drogue. Et que c'était certainement pas une date. Bon, c'est sûr que pour elle, ça a l'air pas mal mieux encore, cette version-là, que de dire qu'elle l'a leurré en disant qu'elle voulait le dater. Le weed en Floride, c'est très mal vu. Tu pourras des sentences plus sévères que si tu te fais pogner avec du crystal meth. C'est pas des jokes, j'exagère même pas. Bon, je vais continuer avec la suite des événements d'après la version de Jennifer Mee. Elle a déclaré que le soir du meurtre, elle est allée rencontrer Shannon au point de rencontre. Et ensuite, elle l'a guidé plus loin dans la ruelle en prétendant que les revendeurs de drogue s'y trouvaient. Mais en fait, il n'y avait aucun revendeur de drogue. C'était seulement Newton et Rayford qui attendaient. Et leur but, c'était pas de lui vendre du cannabis, mais plutôt de lui voler ce qu'il y avait sur lui. Après avoir guidé Shannon vers les deux malfaiteurs, semble-t-il que Jennifer aurait rebroussé chemin et aurait attendu un petit peu plus loin. Et je suis pas surpris, leur plan a vraiment pas été comme prévu. Shannon a décidé qu'il allait pas se laisser faire et il a résisté. Là, les deux crises de crétins ont dû paniquer et ça s'est pas passé comme dans le dernier film gangster qu'ils ont écouté, donc le stress a trop monté et la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire feu à plusieurs reprises sur Shannon, pour ensuite lui retourner les poches alors qu'il se vidait de son sang. Les trois poltrons ont ensuite pris la fuite en direction de leur appartement pour y dissimuler les objets qui appartenaient à Shannon et semble-t-il que c'était la panique et personne n'a dormi de toute la nuit. C'est pas facile la vie de truand. Tout ça pour la coquette somme de 50$ qui, une fois divisé en trois, leur donne 16,67 chaque. C'est crissement malheureux qu'un jeune homme plein de potentiel qui est en train de changer sa vie pour le mieux a été abattu pour un montant aussi anodin. En Floride, ils niaisent pas avec ça. Si tu commets un crime et qu'il y a quelqu'un qui perd la vie dû au résultat de ce crime, c'est considéré comme un meurtre au premier degré. Et ça s'applique pas seulement à la personne qui est appliquée sur la gâchette, mais aussi à tous les complices. Donc Jennifer Mee, Rayford et Newton se sont vus chargés de meurtre au premier degré. Les trois crises de crétins ont tous plaidé non coupables et pensaient avoir une chance de s'en sortir avec un procès devant jury. Et la peine maximum pour ça, c'est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jennifer Mee a refusé un deal avec le procureur pour 25 ans de prison. Elle voulait avoir juste 15 ans. Et son avocat semble être une méchante cloche. Il va tenter plusieurs tactiques désespérément. Il se nomme John Trevana. Le premier argument qu'il a donné, c'est pas le moindre. Il a prétendu que sa cliente n'a pas pu organiser un deal de drogue, car au moment des faits, elle n'avait même pas de téléphone cellulaire. Je sais très bien que dans l'époque où l'on vit, ça va sembler un peu dur à croire, mais il y a moyen de vivre et de fonctionner sans l'aide d'un cellulaire. Il a aussi déclaré que sa cliente Jennifer était atteinte de schizophrénie. Donc, elle a suivi des évaluations psychiatriques et a été déclarée apte à subir son procès. Ensuite, il s'est dit qu'il n'y avait rien à perdre, donc il s'est essayé avec le syndrome de Tourette. Bon, elle n'a pas le syndrome de Tourette, et même si ça aurait été le cas, ça n'a aucun crise de rapport avec les événements qui se sont produits. Il a aussi tenté de convaincre les membres du jury que si sa cliente avait fait des mauvais choix dans la vie, c'était dû à sa crise de hockey qui, je tiens à le rappeler, est arrivée plus de 3 ans avant la mort de Shannon. Il n'y a personne de ses proches qui était au courant avant que ça soit divulgué en cours, mais semble-t-il qu'elle s'est faite violer et qu'elle a été victime de violences conjugales quand elle était plus jeune. Je sais que c'est le genre d'affirmation qu'il faut prendre vraiment au sérieux, mais je sais pas, je m'épargne les commentaires. Pendant que l'avocat de Jennifer tentait plusieurs tentatives de défense, le procureur de la couronne, lui, avait un atout majeur dans sa manche. C'est rien de moins qu'un enregistrement audio d'un appel que Jennifer a passé à sa mère alors qu'elle est incarcérée en attente de son procès. Dans l'extrait, on peut entendre Jennifer qui annonce à sa mère qu'elle est accusée de meurtre au premier degré. Qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle était seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. On peut entendre clairement Jennifer dire que c'est elle qui a tout organisé, que c'était pas supposé se passer comme ça, que leur plan avait chié, que rien n'avait été comme prévu. Wow, tu m'étonnes. Dans le monde criminel, si ça se produirait tout le temps comme prévu, il n'y aurait pas un chat en prison. Plus tard, pendant les procédures, comme un mauvais souvenir enfoui pas très loin, Jennifer a été aux prises avec une crise de hockey. Mais n'ayez crainte, cette fois, ça n'a duré qu'une heure. Était-ce une vraie crise ou est-ce qu'elle jouait du violon? Je vous laisse décider. J'ai pas vraiment de détails sur le procès des deux autres morons parce que Jennifer allait overshiner tout ce petit dossier-là. Et je trouve ça vraiment dommage pour les proches de Shannon, car il y a des articles qui mentionnent à peine son nom. Les procédures judiciaires ont duré plus de 3 ans et les 3 suspects ont été jugés coupables pour meurtre au premier degré. Et les 3 se sont vus imposer une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Suite à ça, alors qu'elle a été incarcérée, Jennifer Mee a participé à une entrevue télévisée. Elle y déclare que quand elle a rencontré Shannon au point de rencontre, elle l'a apprécié instantanément et qu'elle regrette sincèrement de ne pas lui avoir dit de rebrousser chemin. Elle continue à déblatérer de la merde en revenant sur le fait que ce serait dû à son hockey qu'elle a fait tous ses mauvais choix. Ensuite, elle prétend que Ray Ford et Newton l'auraient manipulée. Elle utilise même le terme, tenez-vous bien, lavage de cerveau. Et que le soir du meurtre, elle n'avait pas dormi depuis au moins 3 jours, mélangeant cocaïne, ecstasy et cannabis. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas de sa faute. Ses proches ont créé un site internet dans le but d'informer les gens et de demander du support pour que la sentence de Jennifer soit révisée. Le problème, c'est que j'y ai lu des éléments qui viennent contredire des choses qui ont été prouvées en cours. Comme le fait qu'elle était au courant de rien et qu'elle pensait qu'elle organisait un deal de drogue. Mais comme on sait, ça a été prouvé en cours qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait et que c'était pas un deal de drogue. Semble-t-il que le but, c'était pas de le tuer. Ça, j'ai pas de misère à le croire. C'est juste qu'ils ont atteint un autre niveau quand ils ont retourné les poches de Shannon pour le dépouiller ce qu'il y avait sur lui pendant qu'il se vidait de son sang. Il y a vraiment beaucoup de gens qui croient que sa sentence a été trop sévère, qu'elle méritait pas ça, qu'elle a pas appuyé sur la gâchette. Si Jennifer Mee aurait pas été là, Shannon serait encore en vie, peu importe qu'elle ait appuyé sur la gâchette ou non. Elle savait très bien ce qui allait se passer. On s'entend pour dire que si on remplace Jennifer Mee par une méthode ou simplement par un homme, c'est soit que tout le monde s'en calisserait ou soit que tout le monde serait bien content que la sentence soit prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a même beaucoup de gens qui croient que Jennifer est une victime dans ce dossier-là. Hey, pauvre petite, elle a été brainwashée. Je tiens à rappeler que la victime dans cette histoire-là, c'est pas Jennifer, mais bien Shannon Griffin. Et il y a aussi sa famille et ses proches, mais pas elle en tout cas. Et sur ce, ça fait pas mal le tour du dossier entourant la mort de Shannon. Je veux vous remercier sincèrement d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous êtes les vrais de vrais. Et si vous avez apprécié et que vous voulez supporter le podcast, tout ça sans débourser un de vos dollars durement gagnés, vous avez juste à en parler autour de vous, à votre commis d'épicerie, votre thérapeute, ça peut même être à votre professeur de yoga ou l'inconnu que vous croisez dans la cage d'ascenseur en vous rendant au travail le matin. Mais ce qui est certain, n'oubliez pas de barrer vos portes et de fermer vos volets.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.